À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, en ce mardi saint, sera question d'un jeune Français, fils de vigneron, un homme d'une famille simple qui s'est donné complètement à Dieu et est devenu le bienheureux Luc Martin Huin. Il est mort, il n'avait même pas 30 ans, 29 ans et 5 mois. Il est mort en 1866, martyr, en Corée. On peut dire de lui que c'est l'un des nombreux fondateurs de l'Église de Corée qui, en fait, a été fondée par des laïcs. Je vais vous expliquer ça, des laïcs coréens en plus de ça. C'est très spécial que cette grande Église catholique de Corée, qui est beaucoup plus importante qu'on ne le croit, et qui a été nourrie d'héroïsme et d'une telle foi en Jésus-Christ que je reste toujours étonné quand je lis des choses au sujet de l'Église catholique de Corée. Le bienheureux Luc Huin, H-U-I-N, ça a presque l'air d'un nom coréen, H-U-I-N, il est né en Haute-Marne, près dans le diocèse de Langres. Le 20 octobre 1836, son père s'appelait Claude Huin, sa mère Jeanne Chaudot. Je vous ai dit que ses parents étaient vignerons. Ils avaient de nombreux enfants. Il est le 9e, lui, le dernier d'ailleurs, d'une famille de 9 enfants. Et sa vocation s'est enracinée très jeune. Et il a d'ailleurs fait ses études au petit séminaire de Langres. Et une pensée a toujours guidé ce jeune Luc Martin Huin. Avant même d'exister sur sa vocation missionnaire, puis de pouvoir la réaliser très jeune, il disait qu'il fallait d'abord posséder ce qui fait le bon prêtre. Il appelait ça comme ça, le bon prêtre. Il voulait devenir le bon prêtre. Il se donne donc avec beaucoup, beaucoup de loyauté. C'est un homme simple, un peu timide, solide, jeune, un peu effacé aussi. Mais c'est avec loyauté et générosité qu'il se donne à sa vie de grand séminariste, de préparation au sacerdoce. Il fait de la philosophie à la fin de son année de philosophie, en 1856-57, donc à 20 ans. On lui donne, dans les registres là-bas, une appréciation écrite, là. C'est écrit que Luc Huin étudie avec succès, sa piété est solide, mais il a un peu de susceptibilité. J'aime bien ce type parce qu'il a des défauts. Il aura des défauts jusqu'à sa mort. Il aura peur, comme Jésus. Jésus a eu peur, hein? Il a demandé que le calice s'éloigne de lui. Il a craint. J'aime pas tellement ces martyrs qui semble ne rien craindre, ça me gêne, parce que moi j'aurais peur. Et c'est pour ça que j'aime bien ce bienheureux Luc Martin Huin. Au moment de sa prêtrise, en 1861, même pas 24 ans, une remarque résume l'impression qu'il donne. On dit qu'il paraît avoir quelque chose d'un peu dur dans la physionomie, mais au fond, un bon esprit puis un bon cœur. Il est d'apparence réservée, comme je vous ai dit, mais il a en réalité quoi un cœur d'or. Et l'appel de Dieu va triompher dans son cœur. Hein? Mais ça lui prend du temps à résoudre le problème de sa vocation parce qu'il est tiraillé. Il est tiraillé entre l'appel de Dieu puis l'attachement profond pour sa famille. Et dès ses études de philosophie, l'an 56-57, c'est-à-dire en janvier 57, il écrit à une de ses cousines « La vie du grand séminaire me plaît beaucoup. On y est très heureux quand on s'y plaît. On n'associe que de soi des besoins de son âme. Mais je n'ai qu'un regret, c'est de sentir mes parents seuls chez nous comme s'ils n'avaient jamais eu personne. » Et lors de sa première année de théologie, c'est la deuxième année au grand séminaire, ça, il est frappé par les conférences que donnent deux évêques. Ce sont des vicaires apostoliques, on appelle ça comme ça, des vicaires apostoliques. Ce sont des évêques qui sont en pays de mission. L'un est en Chine, puis l'autre aux Indes orientales. Il écrit en décembre 1857 à l'une de ses sœurs, « J'ai été quelque peu remué en les entendant, je l'avoue. Et je ne te le dissimule pas, je voudrais bien être appelé à me joindre à de pareils ouvriers évangéliques. Si tu étais assez courageuse, ma chère sœur, je te prierais de demander à Dieu cette vocation pour moi. Parce qu'elle, sa sœur, elle aimerait bien devenir l'accompagner dans son sacerdoce, entretenir son presbytère et tout ça. Alors, mais elle va prier, puis elle va être exaucée. Dans cette lettre, d'ailleurs, il fait part de quelques peines d'esprit, comme il dit, comme à l'époque. Qu'est-ce que c'est ça que des peines d'esprit? C'est-à-dire, disons, des tourments intérieurs. Il va avoir, peu après, à souffrir d'une grande épreuve qui va arriver dans sa famille. C'est terrible, c'est l'incendie de la maison de sa famille au début de 1858. D'une époque où les assurances ne garantissaient pas comme aujourd'hui, hein. C'était une catastrophe, d'autant plus que les matériaux étaient très rares et hors de prix. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait la construction du chemin de fer qui prenait tout le bois, qui n'est pas en si grande quantité là-bas, et le chemin de fer passait à proximité. Alors, l'abbé Huin, même s'il est pardonné, on les appelait déjà l'abbé Huin, partage profondément donc les soucis de sa famille, son père, sa mère, ses frères, c'est ça. Il est même question qu'il demeure travailler à la maison à la rentrée d'octobre. Alors, il faut toute la foi des parents, puis le courage du séminariste pour ne pas retarder la préparation au sacerdoce. Et chaque fois que la vocation se précise, qu'il en est question dans les conversations du séminaire avec son directeur de conscience, ou bien dans ses confidences, là, avec ses sœurs ou à d'autres personnes, il dresse toujours comme un obstacle ressenti, là, sous la forme d'un lien très fort, c'est les difficultés qui viennent de sa famille. Il est très attaché à sa pauvre famille. Comment ce jeune séminariste peut-il se résoudre à partir en laissant ses parents aux prises avec une quasi-misère, hein? Comment, d'autre part, être en règle avec le diocèse qui lui a facilité la préparation au sacerdoce, qui lui a payé ses études, etc.? Et comment, enfin, ne pas manquer de justice envers sa sœur Françoise, qui s'est engagée là, comme employée de maison chez un licoriste là, à Langres, pour l'aider à payer ses études, en espérant bien, évidemment, le rejoindre un jour, comme je vous ai dit, dans un presbytère? Alors, si bien qu'à la fin de son grand séminaire, malgré le laisser-passer de ses supérieurs, pour pas dire leur opinion même plutôt favorable, ce jeune abbé Huin n'a pas encore résolu son cas de conscience. Et il ne sait pas s'il va s'engager vraiment au service du diocèse de Langres comme futur prêtre diocésain, tout simplement, plutôt que s'en aller comme missionnaire. Et le temps passé à voir clair n'est pas perdu quand même, hein? Ce jeune abbé Huin l'emploie à étudier, à prier, à se donner surtout. Et à l'approche des ordres majeurs, c'est-à-dire le diaconat puis la prêtrise, c'est le sens de la croix qui s'implante de plus en plus dans son cœur, la croix. Parlons-en durant cette semaine sainte, c'est très important, hein? C'est une des dominantes de la spiritualité des prêtres dans les séminaires à cette époque. Et par lui, en tout cas, c'est bien compris. Il le comprend. Surtout sous la forme de l'acceptation joyeuse, je dis bien joyeuse, de tout ce qui, intérieurement, fait souffrir son tempérament. Donc, la joie dont son âme rayonne de plus en plus. Il paraît bien l'avoir cueillie au bon endroit, c'est-à-dire au pied de la croix. De la croix, non seulement acceptée, mais aimée pour Dieu. L'aimer pour Dieu. Comment ça? C'est très complexe en apparence. Beaucoup de ces lettres en témoignent. Bon, je vous lis un passage caractéristique de l'une d'elles qui est adressé à une religieuse, il n'a que 22 ans. Hein? Viennent maintenant les peines, les chagrins, les amertumes, les dégoûts, les ennuis, les importunités, la mélancolie, la mauvaise humeur et le reste. Maîtrisons tout cela. Et disons encore avec l'apôtre Paul, « Je me plais dans mes infirmités car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Je sais à qui je confie mon trésor, et je sais bien qu'il me sera rendu au dernier jour. Alors, ma très chère sœur, aimons le bon Dieu, ne lui refusons rien, ayons une seule chose en horreur, tout ce qui peut lui déplaire. En d'autres termes, comme on disait quand on était jeune, faut pas faire de peine au bon Dieu. C'est pas si bête, au fond. Ça a l'air quétaine, mais c'est pas si bête du tout, c'est riche. Mais pour les privations, dit ce jeune séminariste, l'abbé Huin, mais pour les privations, les brisements de cœur, les mortifications de nos passions, aimons-les par amour pour lui, qui a tant souffert pour nous. Alors, il est ordonné prêtre le 29 juin 1861. Il a 24 ans. Il a Buin est nommé un mois plus tard vicaire d'un bourg relativement important, près de 2000 habitants, Voisé. C'est un village situé pas très loin de son village natal. Alors, il va y demeurer 2 ans. Et puis, ce n'est donc pas par dépit ou par dégoût, par besoin d'évasion, là, qu'il veut s'en aller. Parce que malgré les liens qui se sont établis entre lui et cette population de Voisé, malgré toute l'affection qu'il porte à ses parents, à ses sœurs aussi, il ne refuse pas l'appel de Dieu qui lui demande de devenir missionnaire. Il n'y a pas de dégoût là-dedans. C'est pas de l'évasion. C'est pas de la gloriole non plus ou de la présomption. Il entreprend définitivement les démarches officielles de changement d'orientation, et c'est bien par souci de répondre à la volonté de Dieu. Il est conscient de ses limites. Il appuie sa décision sur des motifs positifs, parce qu'il voit bien qu'il a une bonne santé, il a des aptitudes suffisantes, il a une inclination persistante au fond du cœur, et surtout, il sait que les missions ont besoin de missionnaires. Et puis, il y a l'exemple de pas mal de ses aînés qui œuvrent déjà dans les terres dites païennes ou qui s'y préparent rue du Bac à Paris chez les missions étrangères de Paris. Nous avons ici des missions étrangères, à Pont-Viau. Et tout cela ressort clairement de sa belle lettre qu'il adresse le 4 novembre 1862 à l'évêque de Langres, son évêque, pour lui demander l'autorisation de se consacrer aux missions, Il y a de la délicatesse, une résolution ferme dans toute cette belle lettre. Et puis, l'abbé Huin, eh bien, se donne à fond à sa vie d'aspirant missionnaire. Il adhère de toute son âme au genre de vie qui lui est demandé, puis il retrouve le chemin de spiritualité à laquelle il est déjà préparé. Et je le reviens là-dessus parce que c'est très important, c'est la joie dans l'amour de la croix. Je comprends bien qu'il y a des gens qui ont de la misère à comprendre ça. Moi-même, des fois, j'ai de la misère, mais c'est la joie dans l'amour de la croix. Je l'ai expérimenté en adoptant quelqu'un qui était très difficile. Et si vous saviez la joie qu'on a, c'est indescriptible. Je ne veux pas en parler parce que c'est trop personnel, mais de toute façon, lui, il fait une retraite qui vient l'aider dans ce sens. Une retraite conçue pour favoriser au maximum, chez les aspirants, une vie spirituelle personnelle très profonde. Et il écrit le 27 septembre 1863... Le 4 octobre commence pour nous une retraite de 8 jours, pendant laquelle on ne prêche pas. Il y a seulement en commun des lectures spirituelles et 3 méditations par jour, de 3 quarts d'heure. Par sa sœur Françoise, il a déjà écrit quelques jours avant, le 5 septembre, « Ici, la vie est rude. On n'y fait pas attention, on va en promenade sans craindre jamais ni la pluie ni la neige, et on ne sait pas ici ce que c'est qu'un parapluie. » Alors, ils affrontent la pluie sans parapluie, et la neige aussi. Il ajoute, il y a ici une gaieté dont on ne saurait se faire une idée, comme c'est vrai. Je vous ai déjà dit que à 18 ans et 19 ans, j'étais à Saint-Benoît-du-Lac. Je n'ai jamais été aussi heureux, et je n'ai jamais autant ri, et je n'ai jamais autant apprécié chaque minute de ma vie. Il ajoute, quand cette vie-là ne plaît pas, impossible de rester ici une semaine. On décampe ordinairement le premier ou le second jour. Si vous le voulez bien, là, on suivra pas notre aspirant missionnaire, là, Luc Martin Huin, dans tous les détails de sa vie de séminaire. Je pense qu'il est plus utile de fournir quelques indications sur cette société des missions étrangères de Paris, dont je vous ai parlé plusieurs fois en vous parlant de missionnaires comme ça, là. C'est que les hommes donnent le style aux institutions, mais les institutions forment aussi les hommes. Puis, dans le cas présent, l'esprit des missions étrangères de Paris semble avoir bien cadré avec le tempérament de l'abbé Huin, de ce jeune prêtre. Et cet esprit-là a définitivement lancé son âme, on peut dire, sur sa pente naturelle, ce qui l'habite. Et cette société des missions étrangères de Paris, c'est la plus ancienne des sociétés spécifiquement missionnaires, saviez-vous ça? Elle a fêté son tricentenaire à la fin de 1963, donc elle date de 1663, c'est pas d'aujourd'hui. À vrai dire, au début, elle n'a été qu'une société proprement dite, puisqu'elle a débuté par la fondation du séminaire de la rue du Bac. la rue du Bac à Paris, tout près de la chapelle miraculeuse, la chapelle de Sainte-Catherine Labourée, des Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. C'est une société de prêtres missionnaires. C'est des particuliers. C'est destiné à fournir des missionnaires, donc, aux premiers vicaires apostoliques en Asie, puis à leurs successeurs. Ils sont étroitement liés au Saint-Siège, au pape, par la congrégation qu'on appelle, j'aime pas le nom, la congrégation de la propagande, c'est-à-dire de la propagation de la foi, pour propager la foi à travers le monde. Congrégation, c'est-à-dire le ministère du gouvernement, si vous voulez. Et ce séminaire des missions va tendre essentiellement à créer en Asie un clergé séculier autochtone, mais va s'adapter le plus possible aux mœurs et aux coutumes des différents pays. Et voici à ce sujet un passage des instructions envoyées de Rome aux premiers évêques des missions étrangères de Paris en 1659, donc avant la fondation. Oui, je dis bien en 1659, parce que vous allez être surpris de ce que vous allez entendre. Écoutez bien ça, c'est surprenant. C'est les instructions envoyées de Rome. Écoutez ça. C'est moderne au suprême degré, on dirait que ça a été écrit en l'an 2050. Ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leur rite, leurs coutumes et leurs mœurs, à moins qu'elles ne soient évidemment contraires à la religion et à la morale. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois la France, l'Espagne, l'Italie ou quelque autre pays d'Europe ou le Québec? N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi. Cette foi qui ne repousse ni ne blesse les rites ni les usages d'aucun peuple, pourvu qu'il ne soit pas détestable, mais bien au contraire, veut qu'on les garde et les protège. Il est, pour ainsi dire, inscrit dans la nature de tous les hommes d'estimer, d'aimer, de mettre au-dessus de tout au monde les traditions de leur pays et le pays lui-même. Alors, ne mettez donc jamais en parallèle les usages de ces peuples avec ceux de l'Europe. Bien au contraire, empressez-vous de vous y habituer. Incroyable, hein? 1659. Ensuite, on blâme l'Église de bien des choses. On a fait des erreurs parce qu'on n'a pas voulu écouter les précieux conseils. L'abbé Luc Huin est nommé, donc, pour être missionnaire en Corée. D'où vient cette foi? Je vous ai dit que vous en parlerez. Ce sont des Coréens qui, les premiers, ont introduit la foi coréenne dans leur pays, dans leur propre pays. Et le fait le plus extraordinaire encore et unique dans toute l'histoire de l'Église, ce sont des laïcs, de simples laïcs. Hein? On cite comme remarquable le cas du Japon, où des chrétiens, des laïcs, ont entretenu la foi pendant des siècles sans prêtre. Vous connaissez l'histoire, je vous l'ai déjà racontée, j'y reviendrai un jour. Mais pour le Japon, il y avait eu au point de départ Saint-François-Xavier. Ici, ce sont des laïcs, ou en Corée, qui les premiers ont tenté d'évangéliser leur propre pays. Voici comment. Les contacts avec les pays étrangers, la Chine tout spécialement, étaient strictement réglementés, très serrés. En dehors de l'ambassade annuelle à Pékin, nul ne sortait du territoire, nul n'y entrait. Il y avait deux foires annuelles seulement à la frontière mandchoue qui permettaient un contact avec l'extérieur, c'est tout. Et comment, dès lors, la religion chrétienne pouvait-elle pénétrer en Corée? C'est par l'ambassade de Pékin. Écoutez bien, en 1777, dans la cargaison que les ambassadeurs remportaient pour leurs amis, se trouvaient cette année-là des manuels traitant de la religion chrétienne, notamment l'ouvrage du fameux père Matteo Ricci, « Véritable principe sur Dieu ». Je vais vous parler du père Matteo Ricci le 11 mai prochain, une belle émission d'une heure sur ce grand jésuite. Alors, des lettrés coréens, bien disposés, et sans doute travaillés par la grâce, par l'Esprit-Saint, découvre dans ses livres la vérité du christianisme dans la simple exposée qu'en faisaient les livres. Hein. Ils en perçoivent l'origine divine dans sa profondeur. Ils en voient l'harmonie, bref, la beauté transcendante. Et après avoir fait ensemble une sorte de retraite dans la montagne, ils décident d'y conformer leur vie le plus tôt possible. Pour être plus exact, il faut dire qu'il y avait eu une pénétration chrétienne au 16e siècle en Corée par le Japon. Des chrétiens japonais qui étaient des soldats convertis par Saint-François-Xavier. Mais ils avaient fait quelques adeptes en Corée, mais Oh, le souvenir s'en était, pour ainsi dire, perdu. Et par contre, il y avait des Coréens amenés au Japon comme prisonniers de guerre, qui ont eu le bonheur, eux, de se faire chrétiens. Puis lors de la terrible persécution qui a eu lieu au Japon quelques années après, des Coréens chrétiens y ont péri, martyrs, avec leurs frères japonais. Mais leur vie et leur martyre appartiennent, dit-on, à l'Église du Japon. L'année d'après, en 1778, un sage du nom de Yi Byok, B-Y-O-K, comme on l'écrit en français, qui, désire en apprendre davantage sur cette religion de Jésus, apprend qu'un de ses amis doit se rendre à Pékin avec l'ambassade. Alors, il le supplie de s'informer, puis pour cela, de se mettre en rapport avec des chrétiens dans la capitale du grand pays, la Chine. Peut-être même pourrait-il rapporter d'autres livres. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors revenons à l'abbé Luc Huin, qui est donc envoyé en Corée. Il arrive en mai 1865, et pendant le voyage vers sa mission, eh bien, il fredonne des hymnes du Saint-Sacrement, puis les chants de la messe qu'il sait par cœur. Il écrit « Ce fut là ma procession. Elle me fut plus douce, je crois, que si j'eusse été en Europe au milieu de vos plus pompeuses cérémonies. J'arrivais à 2 heures après-midi dans ce village qui compte une centaine de chrétiens. Ma petite maison est comme toutes les maisons coréennes en terre, couverte en chaume. Elle sert d'église aux chrétiens. Et c'est dans ma chambre que je dis la messe et qu'ils se réunissent en secret pour prier. Il continue en décrivant sa maison. Il dit, les fenêtres servent de portes. Au lieu de verre, on y met du papier huilé. Pour entrer dans les maisons, il faut toujours se courber à moitié. Dans ma chambrette, je suis assis par terre sur une natte en paille, étendue sur le sol en tout temps, comme les tailleurs d'habits s'assoient sur leurs talons. On ne cherchait ici ni table, ni chaise, ni meuble. C'est bien plus simple de s'en passer, d'ailleurs, où les mettre. Et il ajoute, nos petites cabanes en terre n'ont pas assez de place, c'est trop étroit. Et ainsi accroupi, je mange, je travaille, je reçois les visites. C'est aussi comme cela que les missionnaires entendent les confessions, et c'est extrêmement fatigant. Je couche sur la natte par terre sans crainte de me fracasser la tête en tombant du lit. Puis il n'y a pas de plancher ni de pavé, c'est la terre. Seulement, sous chaque chambre passent des tuyaux, heureusement, de cheminée pour les garantir de l'humidité puis les tenir chaudes en hiver. Ils disent, on ne peut guère sortir de sa case de peur d'être reconnu par les païens. Le soin de sa conservation cloue le missionnaire sur les nattes de sa cabane. Hein? Le mois de juillet, je n'étais pas bien. L'aversion pour ces horribles ragoûts du pays et toute nourriture m'a réduit pendant un mois et plus à une certaine langueur, dont je craignais les suites. Je n'avais plus d'appétit et rien de propre à m'exciter à manger. Tout me dégoûtait au suprême degré. Mais j'ai tenu ferme cependant, car j'ai une constitution robuste et peu à peu ma santé est revenue aussi bonne qu'en France. Ah, que Dieu en soit béni. Et certainement, et il a demandé des choses en France, qu'on lui envoie du café, puis des choses comme ça, mais il les a jamais reçues. Il dit, j'apprends ici, dans une maison chrétienne, la langue du pays. Mais que cela ne vous paraisse pas étrange, car dans ce pays-ci, tout le monde fume. Quelquefois, les femmes plus que les hommes. Mais si le missionnaire ne fumait pas, cela paraîtrait tout extraordinaire. Il dit, je dis la messe dans ma petite chambre, à peu près tous les jours. Je couche sous la planche qui est fixée au mur et qui sert d'hôtel. Et mon servant, l'abbaye, est la départ tous les jours. Imaginez la pauvreté incroyable. C'est merveilleux de lire ces choses de ces jeunes hommes courageux, pleins de feu, hein, ces jeunes prêtres, qui sont dans la vingtaine. Il raconte donc qu'en Corée, où il est missionnaire, eh bien, dit, dans ma petite cabane en terre, il y a 3 petits compartiments. Dans l'un, je dis la messe. Dans l'autre se tiennent les femmes pour l'entendre, et dans le troisième, il y a les hommes. Nous y vont toujours cachés, et nous ne sortons qu'en habit de déguisement. On nous reconnaît cependant très souvent parce que nous ne ressemblons pas aux Coréens. Comment il a fait pour se rendre là? C'est qu'il s'est costumé en noble coréen, en deuil. Alors, ils avaient des voiles devant la figure, c'est comme ça, puis tout le monde s'inclinait et respectait ces Coréens, qui étaient des missionnaires français, ces Coréens qui étaient en deuil. Il dit, je porte ma barbe passablement fournie. J'ai les cheveux longs, très noirs et très épais, reliés au sommet de la tête. Ça fait comme un chignon. Ça me fait, oui, un chignon comme une poire allongée, dit-il. C'est toute une expérience. Il écrit à une bienfaitrice, je travaille avec ardeur à l'étude du coréen, tout en poursuivant celle des caractères chinois. C'est pas facile. La langue coréenne, un alphabet de 24 lettres, il y a 10 voyelles. Oui, 10 voyelles, 14 consonnes seulement. Et les consonnes sont simples, composées ou aspirées, etc. Et cette étude du coréen est encore plus besogne, est encore une besogne, plutôt, qui découragerait facilement si elle n'était entreprise pour le bon Dieu. Et il ajoute aussi, en cette vue, la pensée du découragement ne m'est jamais venue. Dans quelques mois, on me fera déjà travailler, car la besogne presse et les missionnaires sont très peu nombreux. Je m'en réjouis d'avance. Puis après avoir passé 6 ou 7 mois en préparation dans le village de Wang Musil, l'abbé Huin, et au témoignage de l'abbé Calais, missionnaire aussi en Corée, c'est un de ceux qui vont échapper au massacre de 1866 dans lequel va périr un évêque ainsi que l'abbé Huin. Il prétend que M. Huin, c'est celui des confrères nouveaux venus qui avait fait le plus de progrès dans l'étude de la langue coréenne, ce qui est extrêmement difficile. Alors, ce beau commencement d'une carrière missionnaire prometteuse est vite stoppé parce que l'abbé Huin, dans la préparation missionnaire, a été fidèle, a été ardent, tout ça, mais il ne va passer que peu de temps en travail. Effectif, là. Son activité en Corée ne dure au total, imaginez, que 10 mois. Du 27 mai 1865 au 30 mars 1866, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Il va mourir à 29 ans et 5 mois, comme je vous ai dit au début de l'émission. Dans son ouvrage, que j'espère vous avez lu, Les missions étrangères, le père Guénou fait une heureuse mise au point au sujet des missionnaires et dit toute une littérature pseudo-missiologique s'était forcée de déprécier la valeur du martyr. Au 19e siècle, lit-on parfois, certains jeunes gens voulaient être missionnaires pour gagner le ciel plus vite, un peu comme les musulmans qui vont à la guerre pour mourir, pour aller au ciel plus vite, chez Allah. Ce serait le besoin chez les jeunes missionnaires, dit le père Guénou, de réaliser ainsi le désir d'évasion cher à toute âme romantique. Puis il ajoute, si quelques jeunes gens ont pu cultiver le désir du martyr d'une façon aberrante avant d'entrer chez les prêtres des missions étrangères de la rue du Bac, durant leur séjour au séminaire, ils apprenaient à établir la relation entre le martyr puis la fondation des églises. Écoutez bien, on ne devient pas missionnaire pour être martyr, mais bien pour rétablir l'église dans les pays où elle n'existe pas encore. Puis il ajoute, notre Seigneur fut mis à mort pour sa prédication et tous les apôtres à sa suite. Ils ont planté l'Église dans leur sang. Ils ont exprimé par leur attitude une disponibilité totale à l'égard de la volonté divine, soit pour vivre, soit pour mourir. Et plusieurs n'ont pas dissimulé, ajoute le père Guénou, combien grand serait leur bonheur si dans leur tâche de fondateur d'église, Dieu les appelait parcourir jusqu'au bout la voie royale de la croix, la suite du Seigneur. Et les missionnaires qui se situent à ce niveau sont généralement les meilleurs apôtres. En tout cas, on peut dire, entre nous, que les hommes, chefs ou compagnons du père Huin, Luc Martin Huin, dont il est question aujourd'hui, sont, comme lui, des gens à la tête froide. Ils ont la foi ardente, mais lucide, des hommes intelligents. Dans la situation difficile de vivre comme ça en Corée, dans la clandestinité, en se cachant continuellement de crainte d'être pris, où le devoir de l'évangélisation les a placés, là, ils sont partagés entre l'espoir bien légitime de la liberté d'action, puis l'acceptation des conditions extrêmement dures que la loi leur impose, parce que la loi est contraire. Ils sont prêts à accepter plus de facilité, comme à souffrir encore, ou même à mourir. Mais toujours dans une dignité et un esprit d'abandon. On ne peut que les admirer. Et d'accord, suivant les tempéraments, ou plus exactement peut-être les périodes, c'est l'aspiration à la liberté qui semble l'emporter. Ils veulent la liberté pour pouvoir baptiser, confirmer, faire des Coréens des chrétiens convaincus, pleins d'amour pour la très sainte Trinité et en particulier pour Jésus-Christ. Puis, il y a chez eux une résignation joyeuse. Mais tremblante, tremblante. La Chine, vaincue, a signé en octobre 1862 un traité avec les Français par lequel elle acceptait la liberté religieuse. Et rien d'étonnant dès lors qu'en Corée, où la nouvelle se répand, là, vers la fin de l'année, on a eu l'idée qu'il pouvait en advenir autant en Corée, la liberté religieuse. C'était une raison d'espoir pour les missionnaires, mais ça devenait pour les gouvernants coréens une cause d'inquiétude, parce que les chrétiens leur faisaient peur. Le père Huin espère qu'un jour la liberté va venir. Ses contacts avec la situation réelle n'ont cependant plutôt désagréablement surpris. Puis en ce sens que, comme il n'est pas au courant dans le détail de ce que pense et fait son évêque, avec lequel il y a difficulté à avoir des rapports, ben, il est bien obligé de se rappeler la menace légale qui pèse toujours sur tous les missionnaires. Et puis, en octobre et novembre 1865, il écrit ce qui suit. On ne nous recherche pas et peut-être que si on nous prenait, on n'oserait pas nous faire mourir. Par crainte des canons des Français, dont on a entendu parler à l'époque de la guerre de Chine en 1860. Ils ont procuré aux Chinois la liberté religieuse, ces canons français. Il ajoute aussi, les édits de mort sont confinés pour le moment dans les portefeuilles des ministres. Le seul fait de notre entrée comporte la peine capitale, déjà. Nous sommes condamnés à mort. Il ajoute aussi, la religion par ici n'est pas libre. Les persécutions sont sanglantes. Or, l'abbé Huin, finalement arrêté, et tout le temps que dure l'interrogatoire, les soldats qui sont auprès du patient font un bruit sourd et cadencé de façon à couvrir ses paroles ou ses cris de douleur. Les tortures qui accompagnent les interrogatoires sont variées. Le fameux père André Kim, qui a été canonisé, donc le premier prêtre coréen torturé et martyrisé lui-même, le premier de la liste des canonisés justement du 6 mai 1984. Mais le père André Kim a pris la précaution dans un rapport en latin d'en décrire sept sortes, sept espèces, comme il dit, avec des dessins à la plume. C'est terrible. Or, on ne sait pas exactement lesquelles de ces sept façons de torturer ont été employées pour l'abbé Luc Martin Huin et ses compagnons. Au moins deux, à peu près sûrement, qui étaient courantes, officielles, de ces façons-là, pourrait-on dire, en dehors même de ce qui était général, tel que ce qui était pratiqué généralement, c'était de donner des gifles très fortes, casser les dents, injurier, ce qui est terrible aussi, frapper à coups de pied. On leur lançait des pierres aussi. C'est tout ce que décrit le père Kim, ce saint père André Kim. La façon la plus fréquente, la plus facile à utiliser, consistait à frapper les jambes et les pieds avec des bâtons taillés à arêtes vives, ce qui faisait extrêmement mal. Pensons au Christ qui a souffert sa passion. Je vous décris ces choses, c'est pour vous dire que quand on suit le Christ, il faut être prêt à souffrir avec lui. Avec une certaine sérénité, peut-être la crainte, mais avec la confiance et beaucoup d'amour. La seconde façon de faire souffrir ces martyrs plus élaborés, c'est celle signalée en premier par le père Kim. Le patient, bras et pieds liés, voit des bâtons introduits par force entre ses jambes-là, puis des bâtons que les bourreaux manœuvrent de façon à incurver les jambes, ce qui fait très mal. Parfois, ils cassent les jambes, font la même chose avec les pieds, les bras. Et le père Kim note « quando tortores », etc. en latin, c'est-à-dire « quand les bourreaux ne sont pas encore habiles, le bras ou la jambe sont cassés, et quand ils sont experts, ses membres sont incurvés en forme d'arc. Et en dehors du fait qu'ils ont dû subir des interrogatoires accompagnés de supplices pendant 3 jours, du 20 au 23 mars 1866, on ne sait rien de précis sur les questions qui ont été posées aux prisonniers, ni sur les réponses qu'ils ont données. Toujours est-il que ce 23 mars, la sentence d'exécution est prononcée. Et lors du procès d'information pour la béatification du père Huin, l'avocat du diable, vous savez, l'avocat du diable, il n'a pas manqué de relever que le père Huin, écoutez bien, avait donné des signes extérieurs d'émotivité et de douleur. L'un des témoins dit avoir entendu même le père Huin pleurer. comme je l'aime, ce père Huin. Parce que moi aussi, je pense que je pleurerais dans des circonstances comme celle-là. Je serais pas un héros, je le sais. Il y a un autre témoin qui dit l'avoir vu effrayé au moment où il a appris la reprise de la persécution. Et il a dit, « Oh, voici donc la persécution. Nous allons être mis à mort. C'est terrible. » Et c'est ce qu'il a dit, lui, un bienheureux. Un autre témoin dit qu'au moment de l'exécution, on a vu sur son visage la douleur et l'effroi, l'effroi. Rien d'étonnant là-dedans, hein? Si on y pense comme il faut. Si l'on veut se rappeler le caractère émotif et sensible de ce jeune prêtre, Luc Martin Huin. Il me semble qu'il est plus attirant. Ah, moi, il m'attire. Parce qu'il est plus proche de nous, hein? Il est comme nous. On ne peut que l'admirer, car malgré le trouble qu'il ressent dans sa nature délicate, malgré l'agonie au sens de dur combat qu'il a à soutenir comme Jésus-Christ son maître, qui lui non plus n'a pas été impassible, bien il continue dans l'affirmation de sa foi et de son rôle de prêtre, de jeune prêtre missionnaire. Chez lui, comme chez les autres, la grâce du Christ permet de surmonter la peur. Faut pas oublier non plus qu'un autre témoin a noté qu'à certains moments, on a entendu chanter dans sa prison, ce qui est pas contradictoire quand même, hein? Alors voilà que on arrive au Vendredi Saint le 30 mars 1866 et le parallèle entre la passion de notre Seigneur et celle de ses disciples s'impose, hein? Dans ce cas, plus encore que dans celui d'autres martyrs. Pourquoi? Parce que le désir de vivre et de travailler avec plus de facilité au royaume de Dieu, eh bien, s'unit à l'acceptation de la souffrance et de la mort. Oui, l'espoir de continuer à faire du bien, à convertir du monde, voisine avec l'offrande de l'amour. Surtout, il y a une maîtrise supérieure qui leur permet tout à la fois de subir les événements puis de les diriger, comme Jésus-Christ dans sa passion, puis ceci est particulièrement remarquable chez l'évêque, Monseigneur Davelui, qui est martyrisé en même temps. Lui, l'évêque, il sent l'étau qui se resserre sur son petit groupe, puis il veille aussi à ne pas trop compromettre les chrétiens coréens, puis il parvient à faire changer le jour de l'exécution en obtenant que ce soit le Vendredi Saint 30 mars, et non le lendemain ou le surlendemain, le jour de Pâques. Et la sentence n'est donc pas exécutée à Séoul, au jour fixé d'abord, parce que ce jour-là, le roi est malade. Et l'on craint que la mort des missionnaires n'empêche l'effet des cérémonies qu'une troupe de sorciers, là, païens, font au palais pour le rétablissement de sa santé. Et depuis, le roi, à Séoul, doit bientôt se marier. Et il ne convient pas de souiller les environs de la capitale par le sang versé. Alors, ordre est donné d'aller exécuter les condamnés à 25 lieues au sud de Séoul, et non loin de l'endroit où ils ont été arrêtés. Nous allons maintenant écouter encore Damien Pueblo, qui nous chante cette fois-ci un introïte. Je vous en donne la traduction, c'est « Circum Dederum », c'est « Les gémissements de la mort m'avaient entouré. Les douleurs de l'enfer m'ont environné. Dans ma détresse, j'invoquai le Seigneur. Et de son Saint-Temple, il entendit ma voix. Oh, je vous aime, Seigneur, vous qui êtes ma force. Le Seigneur est mon ferme appui, mon refuge et mon libérateur. » Voilà ce que ces martyrs ont sans doute dû chanter au fond de leur cœur. Alors, évidemment que pour ces malheureux, le calvaire est là, en Corée. Et la route du calvaire est longue pour eux. D'abord physiquement, étant donné le séjour en prison puis les interrogatoires des jours précédents, comme je vous en ai parlé. Et bien qu'ils soient par nécessité sans doute tous les cinq à cheval, je vous signale, il y a trois missionnaires, un évêque, deux prêtres, et deux Coréens, dont un catéchiste. Moralement, surtout, car sur leur chemin, ils rencontrent des gens qu'ils ont connus, qu'ils ont aimés, qu'ils ont évangélisés, qu'ils ont préparés déjà au baptême. Ces missionnaires sont, comme pour la montée à Séoul la semaine précédente, affublés de la corde rouge sur les épaules puis d'un bonnet jaune au bord rabattu. Leurs jambes sont enveloppées de papier huilé, retenu par morceaux de toile. Hein. Le jeudi saint au soir, ils sont arrivés près du lieu de l'exécution, puis avant le coucher, il est décidé qu'on s'y rendra pas directement le lendemain, mais que par un détour, on s'amusera à aller les montrer, ces condamnés, à la ville voisine appelée Poryang. En entendant cela, Monseigneur Davelui, l'évêque, réagit. Il dit non, 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 non. Il n'en sera pas ainsi, car il faut que demain, vous nous conduisiez immédiatement au lieu de l'exécution. C'est demain que nous devons mourir. Et chose étonnante, rapporte le père Calais, le survivant, là. On se rangea à la vie donnée. Notre Seigneur voulut leur donner le bienfait de verser leur sang le même jour que lui-même l'avait versé par amour pour nous, pauvres pécheurs, c'est-à-dire le vendredi saint. Alors, selon les renseignements recueillis par le père Riddell, le matin du dernier jour, les trois missionnaires se sont rapprochés l'un de l'autre, une cause ensemble, et personne n'a pu dire ce qu'ils se sont communiqués. Et quelqu'un vient leur apporter quelques gâteaux de farine cuits à l'eau. Chose étrange, le père Huin refuse tout. Le père Omaître, c'est le nom de l'autre missionnaire, lui, il en prend un peu. Et l'évêque, Monseigneur Davelui, semble bien manger de bon appétit, comme si de rien n'était. Est-ce la grâce de l'épiscopat qui joue chez lui? C'est possible. Le lieu choisi pour l'exécution est une plage de sable, et sur un de ses côtés a été élevée une tente là pour le mandarin président, le mandarin qui préside à tout ça, et un grand nombre de ses soldats ont été mis sous les arbres. Ils forment un demi-cercle autour des victimes, en face de la tente du mandarin. Il y a 200 soldats qui forment de leur côté là, la haie pour contenir la foule qui accourt de toutes parts. Et de plus, on a prévu 9 hommes avec des fusils chargés en cas d'événement extraordinaire. Ils doivent ouvrir le feu sur les victimes. Mais on n'a pas besoin d'en venir là. Quelques chrétiens se glissent parmi les curieux. Et j'hésite à vous raconter ce qui suit, mais après tout, c'est la semaine de la Passion. Faisons un effort pour mettre dans notre cœur le même courage que celui qu'ils ont eu, que celui que Jésus a eu par amour. N'ayons pas peur. Alors, je vous le raconte. Le procédé d'exécution fait frémir, encore que plus bref, puis précédé de moins de tortures spectaculaires que pour d'autres. C'est pas le pire des martyrs. Il faut cette fois, comme les précédentes, donner une leçon à la multitude. Alors, les bras du patient sont attachés fortement derrière le dos. Un bâton est placé horizontalement entre le corps et les bras, puis deux soldats empoignent les extrémités et soulèvent le patient. Ils le maintiennent debout. Et une bûche est prête, destinée à être mise sous le cou pour assujettir la tête. Hein? Comme à la Tour de Londres, on a exécuté Thomas More et tant de saints au 16e siècle, quand malheureusement l'Église d'Angleterre, l'Église catholique d'Angleterre, s'est séparée de l'Église catholique de Rome. Et tour à tour, bien, les condamnés vont être jetés en avant sur ce billot et recevoir le ou les coups de sabre. Et Monseigneur Davelui, qui est complètement nu, terrible, passe le premier et il reçoit 3 coups de sabre. Et écoutez, c'est terrible, le bourreau a réclamé un plus fort salaire entre le premier coup, insuffisant, et les deux autres. Ça provoque toute une discussion sur le salaire. Ça dure 10 minutes entre ce bourreau, le chef d'exécution puis les autorités. Ça finit plus. Le père au maître, lui, vient en second lieu. Il reçoit 2 coups de sabre. Et enfin, c'est au tour de notre bienheureux père Luc Huin, qui est décapité d'un seul coup, de même que les 2 autres martyrs coréens. Le fameux père Calais, le survivant, note dans son rapport, « On raconte que monsieur l'abbé Huin était un peu ému avant l'exécution. » Et qu'avant de recevoir le seul coup qui devait l'envoyer au ciel, il a prononcé ces belles paroles. Il ne me coûte ni de mourir si jeune, ni de mourir dans un lieu aussi abject que celui-ci, mais ce qui me coûte, c'est de mourir sans avoir encore rien fait pour sauver ces pauvres âmes. Le bienheureux Luc Martin Huin était âgé de 29 ans et 5 mois. La tête de chaque martyr placée sur une planchette avec 2 bâtonnets est portée au mandarin président, qui peut ainsi constater l'exécution et, s'il l'a vu, retourner la tête sans avoir à y toucher. Puis, Cette tête est suspendue au-dessus du corps au bout de 3 piquets fixés en terre et réunis par le haut. C'est conformément ça aux lois du royaume de Corée. L'ensemble demeure exposé pendant 3 jours pour donner une leçon aux chrétiens. Et ceux qui auraient le goût de devenir chrétiens. Le soir du 3e jour, les Coréens non chrétiens, qu'on appelle souvent, je n'aime pas ça, les païens, les Coréens non chrétiens du voisinage ensevelissent les corps des suppliciés au lieu même de l'exécution. Ils ont posé ce beau geste. Les chrétiens, eux, malgré leur désir, ils n'ont pas osé le faire. Non, ils n'ont pas osé, c'était trop difficile. Le bienheureux Luc Martin Huin fait partie de cette grande cohorte des martyrs chrétiens. Il y en a chaque année, encore aujourd'hui, il y en a toujours. Actuellement, ils sont surtout tués dans les pays malheureusement musulmans. Il est à un titre particulièrement prestigieux, lui, car s'il n'est pas parmi les tout premiers évangélisateurs de la Corée, puisque l'Église de ce pays possède cette particularité unique d'avoir commencé avec quelques laïcs coréens, il fait partie, lui, des martyrs fondateurs, auxquels là-bas, en Corée, on accorde, en toute justice, tant d'importance. Je salue les catholiques coréens qui auraient pu écouter cette émission, et tous ceux qui les aiment, j'en ai connu. La foi rayonnante de ces catholiques coréens est saisissante.